Vous écoutez RTL. RTL midi, 12h30, 14h.
Les auditeurs ont la parole.
Christelle Robière.
Stéphane Carpentier.
À 13h06 sur RTL, vous êtes absolument la priorité à partir de maintenant. Vous prenez la parole au 32-10 pour commenter toute l'actualité qui nous arrive de l'Élysée, puisque Emmanuel Macron, qui dévoile des mesures concernant la banlieue, les quartiers sensibles, vient d'annoncer pour le mois de juillet prochain un plan de lutte contre le trafic de drogue dans les cités. Et ce qui rejoint l'actualité, ce qu'on a vécu hier après-midi à Marseille, avec encore des hommes armés et cagoulés dans les rues d'une cité justement des quartiers nord, qui ont tiré en l'air plusieurs fois, qui ont mis en joue des policiers, le tout sur trafic de drogue. On va en parler avec vous et vos témoignages et vos regards justement sur cette actualité-là, votre vécu à Marseille ou ailleurs justement dans ces quartiers difficiles, vos appels au 3210. Je voudrais qu'on jette un œil d'abord aux réseaux sociaux parce que ça réagit, Laurent Tessier, notamment sur notre page Facebook RTL, les auditeurs ont la parole.
Ouais, il faut la méthode forte dans ces quartiers, demande Petit Fab, les policiers n'arrive plus à gérer ces endroits. Il est temps de passer à la vitesse supérieure, quitte à mettre l'armée pour reprendre la main. Ce qu'il se passe est une honte, rajoute François. Oui, je vous rejoins, il faut mettre l'armée dans ces quartiers populaires. Pour Gérard, quand on voit cette scène à Marseille, on peut se dire qu'on est au même niveau que les États-Unis. Jean-Luc, de son côté, déplore l'impuissance du gouvernement. Il serait temps de faire le ménage. C'est mission impossible, lui répond Alain. Ces racailles sont protégées. La question est, a-t-on peur de ces gens? J'en ai bien l'impression.
Voilà, sentiment sur les réseaux sociaux, quand vous le voulez. Bien sûr, vous nous rejoignez le compte Twitter RTL Midi, la page Facebook RTL. Les auditeurs ont la parole. Christelle, les appels des auditeurs et auditrices au 3210.
Oui, et tout de suite, Marina qui nous appelle de Marseille, justement. Bonjour Marina.
Oui, bonjour.
Vous connaissiez cette cité de la Busserie où a eu lieu cette espèce d'opération commando
Oui, bah, écoutez, j'y ai travaillé pendant quelques années en tant que fermière libérale dans ces quartiers, le quartier nord. Voilà, et c'était dans les années 90. Donc, et c'était déjà un peu comme ça, c'est-à-dire qu'il y avait des règles à suivre pour pouvoir rentrer dans ces cités, se faire reconnaître, pour être sûr qu'il ne vous arrive rien, etc. Mais bon, je suis contente et un peu étonnée à la fois de la réaction. On a l'impression qu'on découvre quelque chose qui est en fait le quotidien des gens de ces quartiers depuis des dizaines d'années.
Enfin, quand même, des gens qui débarquent cagoulés, tout de noir vêtus comme des terroristes et qui tirent en l'air à la Kalachnikov, ça arrive souvent à Marseille, ça?
Je ne sais pas si ça arrive
quand
souvent
même
sous cette forme-là. Mais alors, si c'est ça qui vous choque, c'est bien, je peux le comprendre. Mais ce n'est que le résultat d'une mainmise du milieu sur des cités depuis X temps. Mmh. C'est qu'une des manifestations d'un mal qui existe depuis des dizaines d'années, je le répète. Donc là, évidemment, ça choque les gens qui n'en ont pas l'habitude. Mais des trafiquants qui se promènent, des voyous qui font régler leur loi dans des cités, ça a toujours été là. Alors là, évidemment, ça prend des mesures et des images.
Bah, ça devient spectaculaire.
Ça devient spectaculaire,
quand même,
hein. Mais ça a toujours été comme ça. Oui. Et jusqu'à présent, ça touchait les gens de ces cités-là, dont on se moquait bien. Et maintenant, c'est quelque chose qui est en train de devenir très visible. Et du coup, on est étonné, choqué. On se dit peut-être que ça va déborder. Et là, c'est inquiétant.
Emmanuel Macron est en train de dévoiler en ce moment même son plan banlieue. Il vient de le reconnaître. Il a dit « on a perdu la bataille des trafics ». C'est vraiment ce qui s'est passé selon vous, c'est-à-dire
je ne sais pas si c'est la campagne, la bataille des trafics, mais je trouve qu'on a perdu beaucoup de batailles et contre la criminalité. Alors qu'elle soit du trafic, qu'elle soit de la prostitution, parce que ça aussi on n'en parle pas, mais ça existe. Que ce soit le crime organisé, effectivement, on a perdu le combat. Peut-être parce que la justice ne suit pas les actions de la police. Parce qu'il faut comprendre aussi les policiers. Quand on fait 25 ou 30 rappels à la loi des enfants mineurs et qu'on dit encore non, attention, ne soyons pas trop sévères, parce que ça risque d'être péjoratif pour leur vie future, et qu'on se rend compte qu'en fait, des gens qui font des rixes mortels, qui font du trafic, qui font les trafiquants dans ces quartiers-là sont tous des mineurs, je pense qu'effectivement, on peut se regarder et se dire qu'on y est peut-être un peu pour quelque chose.
Merci Marina depuis Marseille pour votre vécu et votre témoignage. On vous souhaite une belle journée. On va écouter Nadine et Christophe qui ont des choses à nous dire sur ce dossier et cette actualité. Alors qu'Emmanuel Macron, je vous le rappelle, annonce pour le mois de juillet des mesures et concrètement des actions dans ces cités où les épisodes de violence sur fond de trafic de drogue se multiplient. Vos appels, vos témoignages et vos sentiments au 3210, 13h11. À tout de suite.
Stéphane Carpentier,
Christelle Robière.
Les auditeurs ont la parole dans RTL Midi.
Et vos appels qui se prolongent, vos prises de parole au 3210, vos messages sur les réseaux sociaux, notamment la page Facebook RTL, les auditeurs ont la parole. On continue de parler évidemment de la situation dans les quartiers à Marseille, mais pas que, sur fond de trafic de drogue avec des hommes armés qui mettent en joue des policiers. On a vécu ça hier dans un quartier, dans une cité d'un quartier nord de la cité phocéenne. Je voudrais qu'on rejoigne l'Elysée puisque Emmanuel Macron aborde justement ce dossier des quartiers de la banlieue avec Vincent Derosier qui est à l'Elysée et qui suit la prise de parole du président de la République. Vincent, il s'est concentré notamment sur ces cités, hein.
Absolument, un discours pour l'instant, un gros bloc sécuritaire dans le discours du président. Il a promis des annonces concrètes, des choses très ciblées. Pour l'instant, on n'y est pas du tout, hein. Emmanuel Macron a certes vanté les réformes déjà existantes, tout ce qu'il avait fait depuis le début du quinquennat, cette police de proximité. Il a, dès le début de son discours, annoncé qu'il n'était pas là pour présenter un nouveau plan ville, un grand plan banlieue à coup de milliards déboursés. Il y voit une stratégie aussi âgée que lui. Ça, c'est pour Jean-Louis Borloo, son rapport est d'ores et déjà enterré. Il a quand même annoncé pour le mois de juillet un plan de lutte contre le trafic de drogue dans les cités. Pour le reste, pour l'instant, hein, à ce stade, Stéphane, beaucoup de mots creux. Le président veut notamment définir les priorités pour les quartiers et réunir tous les acteurs d'ici le mois de juillet. Donc on repousse de quelques mois l'échéance pour définir les priorités pour les quartiers.
Merci Vincent Derosier depuis l'Elysée, donc le président Macron qui a évoqué au micro sur l'estrade à l'Elysée justement la situation dans les cités.
On a perdu la bataille du trafic dans de nombreuses cités. Et donc on doit avoir un plan de mobilisation générale, de lutte contre les trafics de tout genre, parce que ce sont des trafics internationaux, il ne faut pas se tromper. Et donc pour le mois de juillet, je veux qu'on ait aussi finalisé un plan de mobilisation sur justement la lutte contre les trafics de drogue. C'est un élément absolument indispensable.
Emmanuel Macron depuis l'Elysée. Vos prises de parole ont rejoint Christophe qui est fonctionnaire de police dans le Sud-Est justement. Bonjour à vous Christophe.
Bonjour.
Bonjour. On a perdu la bataille des trafics, vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron ?
Ah ben, il y a très longtemps qu'on l'a perdu dans les quartiers et pas que dans les quartiers, puisque la problématique des stupéfiants, c'est une des problématiques de la sécurité en France. Ça rapporte des sommes qui sont considérables, les enjeux pour les trafiquants sont énormes et la vie d'un homme n'a pas beaucoup de valeur à ce niveau-là. Ce qui s'est passé à Marseille hier, je rejoins l'auditrice précédente, ça fait très longtemps que ça dure, ça fait très longtemps que ça existe. Ces hommes armés, il y en a tous les jours, des règlements de compte, il y en a quasiment tous les jours à Marseille. Là, hier, ils ne sont pas allés jusqu'à tirer sur des policiers. Hein, ils les ont mis en joue, ça n'a pas été jusque-là, mais on se rend compte qu'effectivement, la police ne leur fait pas particulièrement peur. Parce que la police, je pense, on n'a pas les moyens nécessaires pour mettre fin à ça. Et là, il ne va pas simplement falloir des paroles, il va falloir des actes forts, et on les attend depuis très très longtemps.
C'est-à-dire, par exemple, qu'est-ce que vous attendez?
Écoutez, quand vous interpellez un jeune, dans notre jargon, on dit qu'il charbonne, c'est-à-dire qu'il vend du produit stupéfiant trois fois dans la semaine, et qu'aux trois fois, il est dehors, hein, à un moment donné, vous dites, qu'est-ce qu'on en fait?
Donc voilà, c'est l'appareil législatif qui n'est pas...
À un moment donné,
il
va falloir que les sanctions soient sévères. Après, il faudra se poser la question. Moi, policier, ça ne me fait pas beaucoup plaisir de le dire et de le reconnaître. Il va falloir se poser la question de la pénalisation ou pas des stupéfiants, du cannabis notamment. Parce que c'est une économie souterraine qui gangrène tous les quartiers, qui fait vivre des quartiers entiers, qui rapporte des sommes d'argent colossales. Et là, on se trouve un petit peu démunis parce qu'effectivement, on peut mettre des gens en prison, mais ces gens-là ont des comptes en banque qui sont remplis à l'étranger, et les quelques années qu'ils passent en prison, ça n'est pas
Donc vous êtes, comme beaucoup de policiers, favorable à la dépénalisation ?
Ah, c'est quelque chose sur lequel je me pose des questions, dire que je suis favorable, non.
Parce que souvent, les policiers nous appellent pour dire, nous, on y est favorable, parce que justement, il faut que ça cesse, et c'est peut-être le moyen de...
Moi, moralement, ça me gêne qu'un État vende un produit stupéfiant, que l'État s'arroge le droit de vendre un produit stupéfiant. Quelque part, moralement, ça me gêne quand même beaucoup. Mais je me dis qu'actuellement, de toute façon, cette fameuse bataille, on l'a perdue. On n'a quasiment plus les moyens de le faire. Les policiers sont quasiment les derniers rentrés encore dans ces quartiers, avec les pompiers de temps en temps. Tout le reste a baissé les bras. Donc ça devient extrêmement compliqué. Et quand je vois que les solutions qu'on nous propose actuellement, c'est la PSQ avec des questionnaires de satisfaction pour les gens quand ils sont en garde à vue, il y a un décalage qui est fabuleux entre la situation dans ces quartiers et dans le pays en général et les situations, les solutions qu'on souhaite y apporter.
Christophe, vous restez là si vous le pouvez. On a un autre sentiment qui nous arrive justement directement de Marseille. C'est Nadine qui est en ligne au 3210. Bonjour à vous Nadine, soyez la bienvenue.
Bonjour.
Merci.
Oula, comment vous appréciez tout ça si vous êtes toujours connecté?
Je suis toujours connectée.
Voilà.
Comment vous dire, mes sentiments sont tellement partagés. Je suis meurtrie de tout ce que j'entends. Je suis horrifiée de ce que j'entends. Je suis marseillaise depuis toujours, marseillaise de cœur. J'adore ma ville et le paradoxe de tout ça, c'est que plus le temps passe et plus j'aime ma ville. Comment vous expliquer ce sentiment? On entend ces drames qui se passe dans une partie de la ville et en même temps, en tant que Marseillais, on a l'impression que c'est pas vraiment ça, quoi. C'est-à-dire que moi, je peux vous dire que j'ai 45 ans. Il y a 25 ans de ça, je sortais pas tranquillement à Marseille. Et maintenant, j'ai des jeunes qui ont une vingtaine d'années, mes enfants, et que je laisse sortir librement parce que en parallèle de ça, la ville bouge et la ville bouge en bien et la ville s'améliore et la ville devient plus festive et c'est tout le paradoxe en fait de cette ville quoi. Donc malheureusement il y a des ghettos, nous les Marseillais le savons, parents d'adolescents, bien évidemment il y a des quartiers qui sont à proscrire, mais à côté de ça je peux vous assurer que Marseille va mieux, Marseille est belle, Marseille vit, Marseille fête, les jeunes sortent, je vous invite vraiment à aller dans Marseille la nuit et vous verrez que ça bouge et que c'est magnifique et c'est là tout le paradoxe de cette ville. Quoi.
Donc vous avez mal à votre ville quand vous voyez les images qu'on a vues?
Oui, parce que je ne suis pas aveugle de ce qui se passe. Bien évidemment, on sait qu'il se passe ça, comme dans toutes les grandes villes. Mais ce que je veux que les auditeurs entendent, et je vous assure que ce n'était pas le sentiment que j'avais il y a 20 ans de ça en arrière. Mais la ville a changé et la ville est devenue un endroit mais festif, sécure. Moi, la semaine dernière, j'ai laissé mon gamin de 16 ans aller fêter le match de l'OM. Mes parents, à l'époque, ne l'auraient pas fait. Vous voyez, donc, c'est tout le paradoxe, en fait. Donc, on a un problème dans les banlieues, comme dans toutes les grandes villes. Il faut cibler et gérer ce problème. Et sincèrement, je rejoins l'auditeur précédent. Et malheureusement, en tant que maman, encore une fois, légaliser le cannabis, c'est quelque chose auquel je réfléchis aussi, parce que je me dis, après tout, pourquoi pas. Voilà, il y a une économie qui gangrène tout ça, et l'argent, le nerf de tout ça, c'est l'argent avant tout, quoi. Donc, essayons de leur couper l'herbe sous le pied. Mais s'il vous plaît, entendez ça, Marseille change, Marseille bouge, vraiment.
C'est entendu, Nadine. Merci à vous de votre coup de fil depuis la cité fossée.
Je vous en prie.
Nadine qui nous appelait au 3210, vous pouvez limiter, évidemment, tout comme Christophe, au 3210, vos sentiments sur cette actualité. Vous êtes les bienvenus, et vous n'oubliez pas les messages sur les réseaux sociaux et la page Facebook RTL. Les auditeurs ont la parole, 13h21, à tout de suite.
RTL midi, 12h30, 14h.
Les auditeurs ont la parole.
Christelle Robière.
Stéphane Carpentier.
Stéphane.
Pardon, excusez-moi.
Vous avez faim?
Oui, toujours.
Moi, oui. On va manger bien et un peu bio à la cantine d'ici 2022. C'est l'un des objectifs de la loi sur l'alimentation qui est examinée à partir de ce soir à l'Assemblée nationale par les députés. On va en parler avec vous dans un instant au 32-10.
Voilà, le problème majeur de ma vie, c'est que j'ai toujours faim. Vous le savez, c'est pas un souci, mais c'est la réalité. On revient aux banlieues. Je voudrais qu'on lise des messages concernant tout ce qui se passe. Bien sûr, la prise de parole d'Emmanuel Macron à l'Élysée, la situation notamment dans les quartiers nord de Marseille, mais ailleurs aussi. Situation que vous analysez, que faut-il faire pour faire face à tout ça? Message sur la page Facebook, Laurent.
Ouais, vous êtes nombreux à réagir, hein, comme à OTEP. Il faut le retour de commissariats de quartier, un soutien plus important à la hiérarchie, reprendre ces zones de non-droit. Tout ira mieux à une seule condition, que la justice suive et que toutes ces personnes ne soient pas remises dehors quelques mois après. Le vrai malaise des cités pour Victor, c'est le trafic de drogue. Le chômage passe largement au second plan. Il est temps que le gouvernement se rende compte, eh bien, que la vie est très difficile pour les habitants des banlieues qui doivent supporter ces scènes quotidiennes. Les pouvoirs récoltent ce qu'ils ont semé, rajoute Vire. Ils ont créé des ghettos. Les parents sont en plus des missionnaires. Et Patrice craint malheureusement que la situation à Marseille s'aggrave. On n'arrive pas à régler le problème depuis des années. Je crois honnêtement que personne n'a vraiment la solution.
Merci Laurent. On revient au standard et au 3210. Philippe nous passe un coup de fil de Bar-le-Duc dans la Meuse. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Christelle. Bien sûr que la solution, elle existe, mais depuis de nombreuses années, avec nos gouvernements successifs, c'est une paix sociale que nous avons achetée.
Mmh.
Il est facile d'enrayer le trafic de drogue, que ce soit dans les banlieues ou en rural, parce que ça se développe partout. C'est à la justice de mettre les moyens en œuvre, chose qu'ils ne font pas. Quand vous avez un dealer qui deal pour une semaine 2 à 3 000 euros de gains, on ne peut pas dire « oui, c'est parce qu'il n'a pas de travail ». Vous pensez que si on lui donne du travail, il va aller travailler pour 1 200, 1 300 euros, mais il préférera dealer. Ce qu'il faut, c'est que tous ces jeunes-là qui sont condamnés, repris par la justice, en prison, c'est dès le matin 8 heures, il faut les mettre au travail. Vous avez été pris à faire du trafic de drogue, vous allez travailler. Il est hors de question de rester en prison, de faire de la muscule, de regarder la télé. On a des forêts qui sont dans des états lamentables. On a des communes qui n'ont plus les moyens d'entretenir leurs communes. Il faut mettre ces gens-là au travail. Il faut enrayer tout ce système-là. Et chose que les gouvernements ont fait successivement, on a fermé des commissariats à proximité, on a fermé des petites brigades de gendarmerie dans les communes. Nous n'avons plus de douane. Nous prenons, si on prend l'Est, tout le département de la Meuse, pas très loin de la Hollande. Il est très facile pour les dealers d'aller chercher de la drogue, du cannabis ou autre. En Hollande, vous n'avez pas de douane. Et comme c'est rural et qu'il y a pas mal de petites brigades de gendarmerie qui ont fermé, ces jeunes-là ont facile à dealer. Mmh.
Donc je résume votre sentiment, Philippe. Il faut arrêter d'injecter de l'argent dans les banlieues et il faut mettre ces jeunes-là au travail, quoi.
Tout à fait. Parce que
ça,
d'injecter de l'argent dans les banlieues, ça ne marche pas. On en a eu la preuve, ça fait 20 ans qu'on injecte des milliards d'euros dans les plans banlieues. Ça ne marche pas. Donc la solution, il va falloir répondre fermement. Hein, on ne peut pas laisser des jeunes qui sont arrêtés par la police ou la gendarmerie en plein trafic de drogue relâchés et qui passent au tribunal 1 an, 2 ans après. Ça, c'est pas cohérent, ça va pas. On ne peut pas motiver les troupes sur le terrain et puis derrière, ça ne suit pas. Alors, je n'accuse pas les tribunaux. C'est parce qu'ils sont surchargés de travail. Mais il y a le ménage à faire dans tout ça. Il faut des comparaisons immédiates, les gros trafiquants de drogue. Il faut être très sévère avec. Parce qu'on a beau les mettre 5 ans ou 10 ans en prison, quand ils ressortent, ils n'iront pas au travail, ils continueront. Donc, ces gens-là, ils doivent être dans un fichier. Il doit être fiché. Il doit être suivi. C'est simple.
Merci, alors, Philippe.
Alors, quand on nous parle de dépénaliser le cannabis, on sait les dégâts que ça fait. On sait. Alors, on va encore devant un problème qui coûtera très, très cher à l'État, parce qu'on va laisser ces jeunes-là fumer du cannabis. Ils prendront le volant, ils provoqueront des accidents, et il y aura des avocats commis d'office, et il y aura des gens qui seront hospitalisés. C'est une chaîne sans fin. Il faut répondre par la sanction.
Le sentiment de Philippe, merci à vous, et merci de votre fidélité. RCL Midi depuis la Meuse à Bar-le-Duc. Vos appels au 3210 pour toute l'actualité, c'est quand vous le voulez, et à partir de maintenant, surtout le standard est pour vous. On va s'intéresser aux assiettes, aux cantines et au bio. A tout de suite.
Stéphane Carpentier.
Christelle Rebière.
Les auditeurs ont la parole dans RTL Midi.
Allez, on passe à table tous ensemble. 50% de produits bio et de qualité dans les cantines d'ici à 2022, c'est ce que promet le gouvernement. Est-ce que c'est une bonne mesure? Vous dites oui à 67% et 23% de non quand même, parce qu'il y a des arguments contre, et notamment Fabrice qui nous appelle de Trappe. Bonjour Fabrice.
Bonjour.
Vous n'êtes pas totalement pour cette mesure, dites-nous pourquoi.
Ah non, parce que pour que ce soit réellement rentable et efficace, il faudra que ce soit du bio locavore, ce qui n'est pas possible. Donc qu'on tape plus sur de locavore, du vrai locavore, avec une agriculture raisonnée, une production raisonnée des produits. Mmh. Et je pense qu'en France, on a les capacités à produire autant de tout ce qu'il faut pour les écoles, pas loin des écoles.
Oui, mais alors il faut aider.
C'est 180 km aux alentours des grandes villes, ou 80 km, je ne sais plus exactement et tout, mais c'est ça. Il me semble que partout en France, on a des territoires qui produisent suffisamment de produits, et donc il faut aider ces agriculteurs-là à produire mieux. C'est non, pas forcément du bio. Du bio, on n'en produit pas assez en France pour pouvoir nourrir toutes les écoles. Donc on va être obligé de l'importer. Donc ce sera une catastrophe.
Ben, ça paraît absurde, surtout, c'est pas le but, bah oui. Quoi. Importer du bio, c'est un peu absurde.
Donc, faut miser sur le locavore, le plus possible.
Mais c'est pas si simple. On voit bien aujourd'hui. On a vraiment les moyens aujourd'hui de sortir un menu qui soit pas trop cher en misant sur le local.
Je pense que oui. On est quand même un pays qui produit énormément. Donc on peut trouver, même, et alors dans ces cas-là, étendre les zones au lieu de passer à 180 km/h, à 180 km.
Ah, ça, c'est un autre débat.
Vous avez roulé ce week-end, vous, Fabrice?
Non, du tout. Du tout, et je ne fais jamais d'excès de vitesse. Non, du tout.
Au lieu de passer à 280 autour, kilomètres autour. Hein.
Voilà, augmenter la zone à 250 km à la rigueur. Mmh. Et je pense qu'on trouvera effectivement des productions. Et surtout, remettre le vrai débat de l'accessibilité à la cantine scolaire. Qui a accès à la cantine scolaire? Moi, j'ai le souvenir que quand j'étais enfant, j'ai 51 ans aujourd'hui, quand j'étais enfant, il fallait que ma maman justifie l'inscription en cantine scolaire, donc il fallait qu'elle justifie tous les trimestres d'un emploi pérenne, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et c'est ça qui est grave. Donc les cantines sont engrangées par un nombre important d'enfants qui n'ont pas lieu d'être en cantine. Donc, oui. qu'on refasse les choses correctement, qu'on redéfinisse le prix de la cantine et je pense qu'on peut y arriver, oui.
On peut aussi lutter contre le gaspillage alimentaire, nous disait Delphine Bateau tout à l'heure dans les cantines.
Arrêter de donner de la viande inconsidérée aux enfants alors qu'il n'y a pas lieu d'être.
Voilà.
Que les parents redeviennent acteurs. C'est important. Si l'enfant a mangé de la viande le midi, qu'il n'en mange pas le soir. Et donc le pouvoir d'achat ça, d'autant plus augmenté des parents et tout, donc le prix de la cantine pourra légèrement être augmenté pour pouvoir avoir accès justement à du locavore. On sait que ça coûte un peu plus cher de produire plus sainement, de produire mieux et tout. Évidemment ça coûte un peu plus cher, mais si on redonne du pouvoir d'achat en faisant attention et que les parents redeviennent acteurs. Moi mon fils, il ne mange jamais de viande le soir à la maison, je ne fais jamais de viande le soir. Il en mange le midi, il ne mange plus à la cantine parce qu'il est au collège et qu'il a la possibilité d'entrer à la maison, mais quand il était à la cantine, il mangeait à la cantine de la viande, il n'en mangeait pas le soir à la maison.
Fabrice, restez
donc,
là s'il vous plaît.
Donc ça me donne un pouvoir d'achat plus supplémentaire.
Vous y croyez quand même, mais il faut faire du vrai local. Fabrice, restez là s'il vous plaît, on va aller dans l'Essonne, c'est Jean-François qui est en ligne avec nous et qu'on salue, bonjour.
Bonjour
Jean-François, vous êtes maire?
Oui, absolument, à Bure-sur-Yvette.
Combien d'habitants?
10 000 habitants.
Ah oui, quand même. C'est grand chez vous. Comment vous faites alors avec les cantines, Jean-François?
Je crois que la question du bio, on y est sensibilisé depuis maintenant de nombreuses années, les élus locaux. Et on essaie de fournir, tous les maires, la meilleure qualité à nos enfants et à nos seniors aussi, parce qu'il ne faut pas oublier les seniors.
Vous avez raison.
Et les personnes âgées qui vivent seules. La question, c'est que... Alors moi, je me retrouve à un moment charnière puisque je suis en train de renouveler mon contrat sur la cantine scolaire. Mm-hmm. Et je me souviens qu'il y a 5 ans, quand on avait négocié déjà notre précédent contrat, on s'était rendu compte que aller acheter près de Bure, ça coûtait cher.
Oui.
Acheter local, ça coûtait plus cher. Mm-hmm. Et on avait dû renoncer, d'ailleurs, et à revoir un peu nos ambitions à la baisse de par notre volonté d'essayer d'acheter local.
Ouais.
Parce que souvent, les gens ils pensent que acheter local, c'est la petite ferme à côté de la ville qui est à 1 km ou 500 mètres. Mais le local, aujourd'hui, il s'entend dans un rayon de 150 km. Bon, si on veut faire un effort et dire on va faire travailler les commerçants, les agriculteurs, les producteurs, tout à côté de Bure-sur-Yvette, parfois, ça peut coûter plus cher.
Moi, ça coûte plus cher parce qu'il n'y a pas les circuits de distribution adaptés?
Oui. Donc, on pourrait croire que celui qui vous fournit la nourriture, il n'a qu'à venir à côté de Bure pour la prendre, mais ce n'est pas ça la question. Ce n'est pas du tout ça. Mais aujourd'hui, moi, dans le contrat qui se termine, j'ai 13%, 12% de produits bio. 12% de produits bio. Et si c'est du bio stricto sensu, c'est-à-dire que cela ne comprend pas les quelques produits locaux qu'on a pu prendre, comme le pain, par exemple, et le label rouge ou tous les labels de qualité. Mais sur le bio, on est à 12% et on a évidemment les fruits exotiques qui, eux, ne viennent pas du local. C'est fort compréhensible. Par contre, dans les offres actuellement que je suis en train d'étudier, évidemment qu'on va monter, on prévoit la marge de 50% bio en 2022. Donc ça, évidemment qu'on ne perd pas...
C'est 50% de bio et de qualité. Donc c'est plutôt 20% de bio.
De bio et de qualité.
Ouais.
Par contre, on va se retrouver forcément confronté à une question de saisonnalité des fruits et des légumes.
Ah bah oui.
Et dans les offres qu'ils nous ont faites, il y a des produits bio qui viennent d'autres pays que la France.
On trouve toujours des tomates bio en hiver.
Bien entendu, et des poires en Italie.
Et voilà.
Forcément. Mais c'est du bio qui a un caractère plus industriel et qui n'est pas un bio local. Mais par contre, il a l'appellation bio.
Jean-François, voilà. On doit respirer un instant. Vous restez connecté depuis l'Essonne, depuis Bure-sur-Yvette, votre commune, et on prolonge le débat avec tous les auditeurs au 32-10 pour ce bio dans les cantines scolaires. 3-2-1-0, à tout de suite.
Stéphane Carpentier,
Christelle Rebière.
Les auditeurs ont la parole dans RTL Midi.
Vous savez que l'actualité continue à primer dans Les auditeurs ont la parole. On continue à suivre tous ensemble le plan banlieue qu'Emmanuel Macron est en train de dévoiler en ce moment à l'Élysée. Ça dure maintenant depuis à peu près trois quarts d'heure. Il y a quelques minutes, il a annoncé d'ici le mois de juillet un plan de lutte contre le trafic de drogue dans les cités à la suite de ce qui s'est passé à Marseille. On en a parlé ensemble. Et il vient d'annoncer la création de 30 000 stages pour les élèves de 3e.
Il y a un autre moment où l'inégalité se creuse et où on n'a pas la même chance d'émancipation, c'est la 3e. Et figurez-vous, pardon monsieur le ministre, ça n'est pas le brevet des collèges, c'est le stage en entreprise. Le stage en entreprise est devenu très important parce que pour nos jeunes, ils vont voir autre chose, mais surtout pour les jeunes des quartiers, c'est devenu une obsession. Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'on n'arrive pas à obtenir. Et pourquoi on n'arrive pas à l'obtenir ? Parce que quand on vient de ces quartiers, on n'a jamais l'entreprise ou la structure qui les accueille. Et donc, il faut que tous nos jeunes de 3e puissent trouver ce stage. Alors, de manière concrète, on va déjà commencer dès maintenant, celle d'avoir 30 000 jeunes des quartiers qui pourront avoir leur stage. 15 000 portés par les entreprises, 15 000 portés par l'État et les services de l'État.
Voilà, Emmanuel Macron au micro RTL de Vincent Derosier en direct de l'Élysée.
Et on suit tout cela, bien évidemment. On revient au bio et à vos témoignages au 32-10, le bio dans les cantines. On avait écouté il y a quelques instants Fabrice et Jean-François qui est toujours en ligne. On va donner la parole à Victor qui est agriculteur. J'aurais d'abord avec Laurent Tessier qu'on regarde un petit peu les messages sur nos réseaux sociaux. Est-ce que c'est possible, pas possible? Quels sont les regards des auditeurs? La page Facebook, notamment RTL, les auditeurs ont la parole, Laurent.
Ouais, c'est bien beau d'imposer le bio dans les cantines, nous dit Matt Lorraine. Mais attention, le coût des repas va augmenter. Certaines familles ne pourront pas l'assumer. D'autre part, le bio n'est pas toujours bio à proprement parler, quand les champs autour ne le sont pas. Autre doute pour Marie-Claude, dans la campagne, ce sera assez facile d'avoir ces produits qualité. Les producteurs ne sont pas loin. En ville, ce sera plus compliqué. Jean-Luc, lui, n'y voit que du positif, mais c'est l'industrie de la malbouffe qui tient les rênes. Et en plus, vive le bio. Oui, mais le bio français, car en Europe, il n'a pas le même sens dans tous les pays membres. Cyril est principal. Je crains que les producteurs ne puissent pas fournir suffisamment pour honorer toute cette nouvelle demande. Dans mon collège, nous établissons deux menus bio seulement par an. C'est tout de même une véritable opportunité pour changer définitivement le modèle agricole en France.
Voilà, et on retrouve Jean-François qui nous a appelé spontanément, qui est le maire de Bure-sur-Yvette. Comment faites-vous au niveau du prix, Jean-François ?
Le prix, nous, on ne veut pas l'augmenter à l'occasion du nouveau marché. Si on peut même le baisser un peu, ce sera bien. Et c'est justement pour maintenir un prix attractif que nous avons dû renoncer à des productions trop locales, il y a 5 ans. Mmh. Donc maintenant, il faut, évidemment, moi je m'inquiète beaucoup par contre pour les villes, vous l'avez annoncé, qui sont à 3% de bio aujourd'hui, et qui vont devoir faire le gap, un gap aussi important d'ici 2022. Et je pense que la loi devrait quand même faire attention à laisser des marges d'adaptabilité aux élus, pour justement que les usagers n'aient pas à subir des augmentations de tarifs très importantes. Très importantes. Et puis il faut aussi que tout le monde joue le jeu et que les producteurs de bio fassent aussi le travail de leur côté.
On va rejoindre un agriculteur qui est à Nancy, qui est Victor et qui est en ligne au 3210, Jean-François. Bonjour Victor, bienvenue.
Bonjour.
Bonjour Victor.
Ravi de vous accueillir. Quel est votre regard de professionnel de la terre ?
Je voulais tout d'abord déjà rétablir quelques vérités, puisque l'ancienne ministre de l'écologie a pris la parole tout à l'heure dans la première partie de l'émission. Elle avait dit que le bio est sans pesticides. Non, c'est faux. Il y a déjà, moi j'aime pas le terme pesticide, j'appelle ça des produits phyto, au même titre que pour l'humain on appelle des médicaments. Donc en agriculture bio, il y a des produits phyto. C'est un fait et ça existe. Et il faut arrêter de mentir sur le consommateur.
Oui.
C'est pas à moi de juger si le bio est pas bien ou pas bien dans les cantines. Par contre, moi, il y a le premier auditeur qui a pris la parole, c'était Fabrice, me semble-t-il, qui a parlé. Ce serait peut-être d'abord mieux de manger français. Moi, je pense qu'aujourd'hui, dans les cantines publiques et aussi cantines scolaires, la plupart des denrées alimentaires à 70% sont étrangères. Je trouve que c'est un peu un scandale pour des cantines publiques. Avant toute chose, de vouloir mettre du bio, remettre du français, ce serait peut-être plus logique parce que ça ferait travailler évidemment les agriculteurs français, puis les intermédiaires, les industriels et tout ce qui s'ensuit.
Voilà, c'était juste ça ce que je voulais dire.
Vous, c'était plutôt mangeons français d'abord, ce sera déjà ça. Ce sera déjà ça. Oui.
Voilà, et puis quand on dit manger de qualité, je veux dire, l'agriculture française est une agriculture de qualité. C'était un peu, c'était aussi pour dire l'argument de mettre du bio dans les cantines, je l'ai entendu tout au long de votre émission, hein, faut mettre de la qualité. La qualité de l'agriculture française est de qualité. Elle est connue pour ça au travers le monde et l'Europe. Je veux dire, les normes que nous avons et la traçabilité que nous avons est quand même au-dessus par rapport à tous nos concurrents européens, voire mondiaux.
Victor, vous faites, vous faites du bio, Victor, ou pas ?
Non, pas du tout. Moi, je ne fais pas de bio.
Pourquoi vous n'avez pas cherché à vous convertir
en bio? Parce que mon exploitation ne me permet pas d'être en bio. Et puis surtout, mes acheteurs, parce que je suis producteur de fruits et céréaliers, mes acheteurs de fruits ne veulent pas du bio, n'en veulent pas. Donc je ne vais pas aller contre la demande de mon marchand, si vous voulez, de mon acheteur.
Oui.
Donc... c'est pour ça que je n'ai pas fait bio. Par contre, mes grands-parents ont créé la première ferme bio dans notre secteur, en Lorraine. Ils ont créé une marque qui s'appelle Biogam.
Oui.
Donc je connais un peu le sujet, je connais bien le sujet. Et ça, c'est intéressant parce que vous me posez la question en disant pourquoi vous ne faites pas du bio, comme si j'étais un peu...
Pas du tout. Parce qu'on dit que là, on est en train de dire en gros que le bio a de l'avenir, puisque les agriculteurs français n'arrivent pas à fournir. Donc c'est pour ça que je vous posais la question. C'est un bon filon aussi pour l'avenir, le bio, pour les agriculteurs, non ? À condition de tenir durant les 3 ans de conversion.
C'est pas très compliqué de tenir les 3 ans de conversion. C'est juste, c'est comment va être organisé. C'est pas parce qu'on passe en bio que tout va changer. Économiquement parlant, hein, je parle. Donc c'est quand même pourquoi il n'y a pas autant de personnes qui se reconvertissent en bio. Et ben, je vous pose la question, je n'ai pas la réponse en tant que telle, mais ça veut bien dire qu'il y a un problème. Peut-être que les filières ne sont pas si bien organisées que ça, et peut-être que le bio ne s'est qu'orienté que sur le marché court. Or, l'agriculture n'est pas que le marché court, est aussi un marché à l'export, un marché d'intérieur européen. Donc oui, le bio peut se développer, mais comment et pourquoi? Enfin, je veux dire, un autre auditeur avait dit oui, du bio, mais français. C'est pareil, je préférais du français avant toute chose, parce que du bio qui vient du Chili ou d'Argentine, on en voit plein les rayons.
Absolument. Victor, merci à vous d'avoir pris du temps pour nous et d'avoir dialogué, notamment sur RTL, dans Les Auditeurs ont la parole. Victor nous appelait de Nancy. On salue Jean-François, le maire de Bure-sur-Yverdre, qui est intervenu depuis l'Essonne, pour sa cantine scolaire, où il fait du bio, mais avec des produits aussi qui arrivent pas mal de l'étranger. Et puis Fabrice a pris la parole, il veut du bio local. On reviendra sur ce sujet qui concerne nos cantines, nos enfants et nos assiettes de façon générale d'ailleurs. Assez régulièrement, on en parle avec vous au 3210, c'est très très concernant.